Hashtag. Donc le sujet de 2017, on fait la question 6. Et donc on est en train de regarder quand l'interaction se déroule avec un seul doigt. Donc quand le doigt arrive, on a un press, après on a des motion, on a un release. Et donc on doit avoir une succession, ça doit nous, notre machine à état doit nous transformer. Ça en un start drag avec le point de départ, on verra après. Des appels à drag, etc. Donc exactement comme dans le TP graffeur. Et quoi sauf que ça s'appelait pan ou translate, je ne sais plus. Il y a un end drag. Okay. Alors, la machine à état, du coup, vous l'avez? Donc ici, il nous faut un point de départ, start. Et puis, il nous faut des X et des Y. Et donc, le start drag, c'est l'arrivée qui va nous le créer. Le release, il va nous faire un end drag. Et puis, au milieu, les motions au milieu vont correspondre des drags. Alors, de combien d'états dont j'ai besoin? Vous vous souvenez, machine à état, pour l'interaction, on partira quasiment toujours d'un état d'attente. Qui est un peu notre état initial de l'interaction. Et puis, quand des événements arrivent, changer d'état s'il y a besoin. Alors, Clémence nous dit trois états. Alors, Caline répond qu'on n'aura besoin que de deux états, puisqu'on n'a pas besoin de prendre en compte le clic, quoi. Alors, vous avez peut-être tous en tête la machine à état dans le TP graffeur, là. Où on l'a tellement ressassé qu'elle vous hante. Elle ressemble à ça, hein, avec des petites boucles là. Quoi, la petite boucle, on n'a pas tellement besoin. Donc on a un press, on a un release. Donc ça nous fait un clic, la boucle qui est là. Et donc l'état idle, là, on a l'état press, et puis l'état drag, en gros. Et puis dès qu'on bouge, ça nous fait du drag. Et quand on relâche, on revient dans l'état de départ. Okay. En fait, cette machine à état-là, c'est déjà un truc un peu compliqué parce qu'elle fait deux choses. On a une partie, la partie du haut, là, qui nous sert à gérer le fait qu'on a un clic. Et cette partie-là, en gros, qui nous gère le fait qu'on a un drag. D'accord? Et avec le passage de l'interaction de clic, press, release, à l'interaction de drag qui se fait via cette transition-là où on avait même mis un test pour dire attention, il faut bouger de plus de 5 pixels. Okay. Alors ici, en fait, si vous lisez l'interaction, allez pas chercher. Alors peut-être que le fait que toutes les interactions qu'on a vues, elles aient un peu cette tête-là, là, peut vous induire en erreur ou vous pousser dans cette direction-là. En fait, comme on n'a pas besoin du clic, notre machine à état, en fait, elle n'a pas besoin des trois états, effectivement. Bon, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, où du coup, le press, il va effectivement nous faire passer dans un autre état. Et quand on est dans cet autre état, en fait, on va faire un drag, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de cas où il y aura des clics et des cas où il y aura drag à la place. Ce sera toujours drag dans ce cas-là. D'accord? Donc le press bleu, là, il débute notre séquence. Donc on a bien un début de séquence. Et après, alors est-ce qu'on a besoin de nouveaux états? En fait, à chaque fois qu'on a un déplacement, là, à chaque fois qu'on a un OptiM, il va falloir faire drag. Et si on n'a pas de M, ou une fois qu'on a fait un M, en fait, La suite dépend pas du nombre de M qu'on a fait ou si on a déjà fait un M ou pas. Quand on a fait le press, ce qui se passe ensuite, c'est deux possibilités. Soit on relâche, et à ce moment-là, notre interaction, elle est finie. Soit on ne relâche pas, mais on fait un motion. Et donc, dans ce cas-là, notre interaction continue. D'accord ? Il n'y a pas de... motion, hop, je mets en rose là. Il n'y a pas de raison d'avoir un troisième état. On a deux cas possibles, le doigt est là ou il n'y a pas de doigt. Hein, là, on est en train de considérer, attention, hein, on est en train de considérer le cas simple où il y a un seul doigt dans notre interaction. Donc, on est en train de traiter la première boulette de la question 6. Hein. Après, ça va être plus compliqué. Et donc ça, on est dans un état... alors, il faut lui trouver un nom, c'est toujours pareil. On peut l'appeler dragging ou un truc comme ça. Drag, ça va être simple. Alors, il nous manque là, on a mis... Ça va pour tout le monde, les états ? C'est mystérieux ou... vous verrez, allez voir quoi, vous pourrez aller voir d'autres sujets, ils sont en général un petit peu plus simples. En fait, la plupart des interactions, elles commencent comme ça. En fait, hein. Il y a un truc qui la déclenche. Donc, on est dans l'état idle, le truc qui la déclenche nous fait passer dans un autre état. Là, si on a l'interaction continue, on a quelque chose qui boucle en général. Et puis, il y a quelque chose qui termine l'interaction. Et effectivement, il peut y avoir des cas où il y a deux interactions qui se combinent. À ce moment-là, il y a un deuxième déclencheur qui nous fait passer de notre état boucle vers un autre état qui éventuellement boucle lui aussi, etc. Mais c'est souvent cette structure-là. On a une structure de bascule entre deux états pour telle interaction ou pas d'interaction. Et puis, on a une structure de boucle parce que l'interaction, elle est continue. Donc, au cours de l'interaction, il faut faire des choses et c'est une boucle. Donc voilà pour la structure. Alors il nous manque des petites choses, il nous manque les actions sur cette machine à état. Donc il va falloir les transitions un petit peu les décorer. Alors vous vous souvenez, hein, une transition, elle a. On l'étiquette avec plusieurs choses. On l'étiquette avec d'abord un événement. Donc, je vais mettre E. Donc ça c'est. Je vais mettre de la couleur. Check. C'est obligatoire. Donc, E, c'est un événement. Okay. Donc, un type d'événement. Après, on a des choses en option. On peut avoir une garde. Alors, vous vous souvenez, la garde, on la note avec un E et on la met avec ce qu'on appelait un prédicat. D'accord ? Je vais appeler condition et je vais vous rappeler donc condition je le mets comme une fonction, c'est quelque chose qui teste quelque chose sur E. Donc condition, ça doit être un booléen. D'accord, donc ça c'est une garde et donc la condition là c'est un prédicat, c'est à dire c'est une fonction qui à partir de l'événement, donc de l'instance d'événement, teste quelque chose sur lui. Est-ce que c'est le bouton gauche ou est-ce que c'est le bouton droit ? Est-ce qu'on est à l'intérieur de ceci ou à l'extérieur ? On va voir, est-ce que c'est le finger ID ? Pour l'instant, on n'a pas encore ce problème-là, mais on va pouvoir faire des tests sur l'événement. Est-ce que ça vient de tel doigt ou tel doigt ? D'accord ? Donc, cette partie-là, elle est... on avait vu, hein, elle est optionnelle, donc on n'est pas obligé d'avoir une garde. Et puis la dernière partie, si vous vous souvenez, c'est du code. Je mets pas d'argument. Et donc c'est une action. D'accord ? Et pareil, celle-là, elle est en option. On n'est pas obligé. d'avoir du code sur toutes les transitions. Et voilà les trois choses qu'on peut avoir sur une transition. À minima, il nous faut l'événement, au moins un événement. Et puis, si nécessaire, une condition. Et à ce moment-là, on franchira la transition uniquement si la condition est vérifiée. Et donc, si la condition n'est pas vérifiée, on n'examinera même pas la suite, c'est-à-dire qu'on ne gardera pas le code, on ne changera pas d'état. Éventuellement, on pourra passer une autre transition. C'est ce qui nous autorise éventuellement à avoir plusieurs transitions qui ont pour origine le même état et le même événement. Et à ce moment-là, il faut que les conditions, il faut que les gardes soient mutuellement exclusives. Il faut qu'il n'y en ait qu'une qui soit vraie à la fois. À ce moment-là, il n'y a pas de non-déterminisme. Il n'y en a qu'une qui peut être franchie pour quel que soit l'événement qui arrive. Okay. Alors, si on revient à nos moutons, là, après ce petit rappel, on va rajouter des actions. Et en fait, vous voyez, hein, c'est assez... quand on a un press, on peut représenter les événements avec les flèches et le M. Oui, oui, tout à fait. Donc là, j'ai mis un E, un grand E, parce que c'est ma présentation générique. Et vous voyez, sur mon dessin, j'ai mis flèche vers le bas, flèche vers le haut et M. Donc les événements, ils sont représentés par les petites lettres. Pour que ce soit plus pratique. En fait, ça représente une catégorie, un type d'événement. Alors, type d'événement, pas au sens Java Swing où on a des mouse events pour les presses, pour les releases et pour les motions, mais au sens d'un mouse event, on pourrait aller regarder là, son get. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce n'est pas très important, mais ils ont un get ID qui vous permet de savoir si effectivement c'est un press, un release ou un motion. Alors, pourquoi ce n'est pas très important en Swing? C'est parce que de toute façon, ils vous sont distribués dans des méthodes. En gros, les presses, c'est ceux qui vont correspondre à des mouse pressed. Les petites flèches vers le haut, c'est ceux qui vont correspondre à l'appel à votre listener, à la méthode de votre listener mouse release. Et M, mouse motion ou mouse dragged. Donc, ils sont déjà éclatés en sous-types, même si c'est tous des mouse events. Là, c'est le type au sens quelle sorte d'événement vous avez, au sens du typage Java. Alors, quand on a le press, on se souvient, il faut faire un start drag. Alors, start drag, il a besoin d'une position d'origine. On verra après. Le motion, il a besoin d'un drag. Ouais, il l'appelle drag. Et il a besoin d'un déplacement x, y. Et le release, il nous fait un end drag. Et lui, il est sympa. Il n'a pas besoin d'argument. J'enlève tout ça.
J'ai une petite question.
Alors, le drag, là, si vous relisez le sujet, là, on a besoin d'un déplacement. DX, DY. Donc, on se retrouve exactement dans le même cas que dans le TP graffeur. Ok.
J'ai une question.
Ce qui veut dire... Ouais.
Ouais. Je me demande pourquoi drag, on ne met pas... moi, j'aurais vu plutôt comme dans la machine à état qu'on avait fait en cours. Genre, on prend des coordonnées de départ à la partie bleue et ensuite, on fait le start drag... dans la partie violette avec les coordonnées qu'on a prises à la partie bleue et après on fait le drag. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, alors si on fait ça, donc tu proposais de mettre le start drag ici. Voilà. Si on fait ça, c'est que le problème c'est que comme on est dans la boucle là, à chaque tour de boucle on va avoir un start drag, drag, start drag, drag, start drag, drag.
Okay. Et moi je pensais que du coup à chaque fois que le gars faisait un tout petit mouvement, ça faisait un. Ça commençait un mouvement, en fait. Non?
Alors, si on relit, là, avec un doigt, la photo est déplacée et le déplacement est géré par les fonctions suivantes. Start drag, qui définit le point de départ du déplacement. Drag, qui déplace la photo. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est... le sujet était peut-être un peu ambigu. Alors, moi, j'étais dans la salle, hein, donc si, et je serai dans la salle pour l'examen. Donc, si, ouais. Et je m'améliore d'année en année, donc j'essaie d'avoir des trucs le moins ambigus possible. Non, là, ce qui était entendu, là, c'était. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans le TP Graffeur. Hein, dans le TP Graffeur, le start drag, il n'y avait pas de start drag, on faisait que des drags. Quoi, on mémorisait le point P au début, et puis après, on faisait que des drags.
D'accord, ok. Oui, donc au pire, on peut demander si on a un doute.
Oui, tout à fait, tout à
Ok,
fait.
très bien.
Et je leverai le doute.
Ok, merci.
Alors, en tout cas, on a besoin effectivement du point P parce que notre drag, là, comme dans le TP Graffeur, il nous faut un déplacement en X, un déplacement en Y, et un déplacement, c'est la différence entre deux positions. Donc, il nous faut une position de départ. Et le sujet vous rappelle que vos événements ont un getPoint. Et start drag, ben on va lui passer ce point P puisqu'on l'a. Et drag, alors DX, du coup, le sujet vous dit, là, les points, ils ont une méthode getX et les événements aussi. Donc vous pouvez faire un truc, l'endroit où on est arrivé, là, e.getX, moins l'endroit dont on est parti. Donc ça, c'est peut-être pas très frais dans vos mémoires, mais ça doit vous rappeler quelque chose. Pour que le déplacement se passe bien, c'est des différences de position qu'on doit donner. Hein, si la souris était à la coordonnée à x égale 100, qu'elle a bougé à x égale 105, le déplacement de combien faut déplacer ce qu'il y a en dessous, bah, c'est de 5 pixels. Et donc pour avoir les 5 pixels, il faut prendre la coordonnée de la souris là où on est arrivé, moins là où d'où on est parti. Et le truc à pas oublier, c'est de mettre à
Du coup, le
jour.
start drag, il sert à quoi? Si on doit faire
Alors, bah,
une.
ça, on ne sait pas. Peut-être que ça met un highlight autour de l'objet qui est
Ok.
sélectionné. Peut-être que ça. D'accord? Ce n'est pas
D'accord,
notre code à nous. Hein?
ok. Ok, merci.
Le hand drag non plus, on ne sait pas. Donc, peut-être c'est. Typiquement, dans une application de dessin, là, quand vous avez plein d'objets, quand vous faites un press sur un objet, il y a un petit highlight autour ou un truc comme ça qui vous montre ce que vous êtes en train de bouger. Vous le bougez, au moment où vous relâchez, ça enlève le highlight. Ben, ça pourrait être ça qu'il y a dans la fonction start drag et dans la fonction end drag. Il nous faut le point pour le retenir pour le tour de boucle suivant, si jamais tour de boucle suivant, il devait y avoir. Hop. Voilà, je vais décaler ça un petit peu. Là, il manque un morceau. Hop, c'était pas barre du T, je pense. Check. Et donc voilà, ça c'est la machine état de la première question. Et je vais vous laisser réfléchir à qu'est-ce qui se passe quand on rajoute un deuxième doigt. Et alors, sachant que quand on rajoute un deuxième doigt, forcément, comme les événements n'arrivent pas en même temps, quand on a un deuxième doigt, ça veut dire qu'avant d'avoir eu un deuxième doigt, il y a eu un premier doigt. OK? Donc la machine à état qu'on a là, on était dans l'état idle, il y a un doigt qui arrive, on est dans l'état drag, il n'y a pas d'ambiguïté. On relâche le doigt, on est dans l'état idle. Donc là, s'il y a un doigt qui arrive, ben, il est tout seul, par définition, puisqu'on était dans idle, il y avait zéro doigt, il y en a un qui est arrivé, on est dans drag. Donc s'il y en a un qui repart, ben, il y en a zéro. Et donc pour qu'il y ait un deuxième doigt, ça veut dire que d'abord, il y a eu un premier doigt. Donc idle. Hop, je suis dans l'état drag. Et donc l'arrivée du second doigt, on doit l'attendre dans l'état drag. Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui se passe si je suis dans l'état drag et j'ai à nouveau un press qui arrive. Donc, je vous laisse réfléchir à cette question-là. Donc, la question, c'est déjà une séquence. Alors, je vais mettre des petits numéros. Alors je vais les appeler 1 et 2, mais ça pourrait être 7 et 12, ça pourrait être n'importe quoi. Donc mes petits symboles là, 1, c'est un doigt numéro 1 qui arrive, du coup lui il peut bouger. Hop. Donc je vous mets une séquence qui peut se produire. 1. Vais faire un peu de ménage là. Donc ça, hop, on va traiter. Après, ça joue des étiquettes. Donc pour l'instant, il est tout seul, tranquille. Et là, j'ai un deuxième presse qui arrive. Et puis, lui, bah, il bouge. Alors, le M1, il peut, le doigt, il peut continuer à bouger aussi. Il n'y a pas de raison. Puis, mettons que le doigt qui est arrivé, il repart. Donc, il n'y a plus que le doigt 1 qui est là. Et il finit par repartir. Donc, ça, c'est une séquence possible. Qui commence comme celle de tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de rien à déclarer. Et qui commence à ne plus être pareil à partir d'ici. Donc c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Alors, on va dans un autre état. On va dans un autre état si on rajoute un doigt, sinon on relâche et on revient dans le drag. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce qu'on doit prendre en compte le cas où le doigt 1 est relâché avant le doigt 2 ou ça ne change rien? Alors, ça, c'est une bonne question aussi. Allez-y petit à petit, hein, mais si vous avez déjà. Si vous voyez déjà le. Comment faire pour la séquence que je viens de donner? Posez-vous la question des fins alternatives. Là. Si jamais je relâche le doigt numéro 1 avant le doigt numéro 2, du coup, il me restera le doigt numéro 2 qui, lui, peut bouger aussi et finira par partir. Alors, sachant que peut y avoir à nouveau un doigt qui arrive à ce moment-là, etc., etc. Donc, vous pouvez vous poser cette question-là. On a deux scénarios possibles. Peut-être que le scénario 1 est le plus simple pour l'instant. Et envisager le scénario 2 dans un second temps. Encore une fois, ça vaut le coup d'aller petit à petit de complexifier les choses. Faire une séquence, créer une séquence, regarder si on sait la traiter, et puis après, de petit à petit, de rajouter des cas, voir si on a bien pensé à tout. Donc, je pense que les indications de Dorian sont bonnes. Hein. Donc, on part de drag, puisqu'il y a déjà un doigt, et on a un deuxième doigt qui arrive. Manifestement, il ne faudra plus faire de drag, il faudra faire autre chose. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir aller dans un autre état. Et dans cet autre état, s'il y a un doigt qui s'en va, manifestement, il faudra revenir dans drag. Hein. C'est ce que vous dit... le sujet, si on relâche un des deux doigts, on revient en mode déplacement. Prendre en compte le cas où le doigt 1 a relâché. Ah oui, d'accord, c'est la même. Pardon, je croyais qu'il y avait une autre question. Alors, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais enlever les actions. Alors, les actions, vous les gardez en tête. Ouais, ça va peut-être être aussi rapide de redessiner. Je ne suis pas dans la bonne fenêtre. Check. Hop, alors. J'efface tout ça. Donc, j'ai mon état d'attente. Presse. Mon état de drag. Analyse. Alors, ma petite bouche, je vais la mettre en dessous pour les... la commodité de la chose. Et donc, ce que proposait Dorian, je ne sais pas si on dit Dorian ou Dorian, hop, c'est de dire, bah, si jamais il y a un deuxième doigt qui arrive, bah, forcément, donc, on a un premier doigt qui est arrivé, donc c'est, on est dans l'état de drag. On va passer dans une nouvelle... dans un nouvel état, qui va être, on peut l'appeler pinch, hein, puisque c'est ça l'interaction qui va avoir lieu. Et là, eh ben, si y a un doigt qui part, de toute façon, il faudra bien revenir à drag. Et donc là, eh ben, le... on va voir ce qu'il faut faire à cet endroit-là. D'accord ? Donc, ici, on mémorisait l'endroit. L'endroit du doigt. P égale, on faisait start. Ici, on fait end. Ici, on fait drag. Et on fait P égale. OK. Alors, si vous regardez le... Ça va pour tout le monde, cette machine-là ? Donc là, il y aura un release. Et là, bah, il va y avoir des motions. Si vous regardez la spec, ça vous dit que quand vous avez des motions et que vous avez deux doigts, la photo est déplacée, tournée par la fonction pinch. Donc il va falloir appeler, d'une manière ou d'une autre, pinch. Et pinch, elle a quatre arguments: l'ancienne position du premier doigt, sa nouvelle position, l'ancienne position du deuxième doigt et sa nouvelle position. Okay. Sachant qu'en fait, il n'y a qu'un des deux qui peut avoir bougé, hein, puisque les deux doigts ne peuvent pas bouger en même temps. Donc, dans tous les cas, en fait, pinch, on va l'appeler. Des fois, elle aura hold P1 et P1 qui seront la même chose, parce que c'est le doigt 2 qui aura bougé. Et des fois, il y aura all P2 et P2 qui vont être la même chose, puisque c'est le doigt 1 qui aura bougé. OK. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que dans cette transition-là, il faut savoir quel doigt a bougé. Est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le deuxième doigt ? D'accord. Et donc, il va falloir identifier les doigts. Alors, comment est-ce que vous voyez comment faire ça ? Ouais, c'est pas trivial. Alors, ce que je vous propose de faire... C'était de pour éclaircir les choses, notre premier doigt qui arrive, sa position, on va l'appeler P1. D'accord ? Hop. Donc, elle sera mise à jour ici. Ça veut dire que dans l'état drag, dans P1, il y a toujours la position du point. Okay. Et manifestement, on va avoir besoin de la position du deuxième doigt. Donc du coup, quand le deuxième doigt arrive, et ben, va sans doute falloir stocker sa position. Et donc, du coup, quand on a un motion avec les deux doigts en place, suivant si c'est le doigt 1 ou le doigt 2 qui bouge, il va falloir faire des choses différentes. Soit il va falloir faire un pinch avec P1 et hold P1 qui sont la même chose, et puis P2, l'ancienne valeur de P2 et la nouvelle valeur de P2. Soit, si c'est le doigt 1 qui bouge, faire pinch avec le P1, l'ancienne valeur de P1, et P2 et l'ancienne valeur de P2, qui sont, elles, n'auront pas changé. Okay. Donc, quelque part, ici, il va falloir tester, est-ce que ce motion-là, c'est le doigt 1 qui bouge ou est-ce que c'est le doigt 2 qui bouge? Et donc, typiquement, bah, c'est une garde dont on va avoir besoin. Donc, il y a une proposition. On récupère un identifiant à partir de l'événement. Ouais, nos événements, hein, dans l'aspect, là, on vous dit, ils ont une méthode getFingerID. Donc, faut noter le numéro de notre doigt. Hein, pour pouvoir savoir lequel bouge quand on a un motion, eh ben, faut avoir quelque part noté le numéro du doigt. Alors, à quel moment on note le numéro du doigt ? Eh ben, sans doute que le bon moment pour ça, c'est au moment où le doigt arrive. Okay. Par exemple, quand le premier doigt arrive, alors j'ai pas mis les types là, mais I, ça va être un entier. On va faire un getFingerID pour noter son numéro. Okay. Et puis, alors, je vais décaler tout ça pour avoir un peu de place au-dessus. Et puis, quand le doigt 2 arrive, je vais noter aussi son numéro. Okay. Donc maintenant, dans I1, j'ai le numéro du doigt 1 et dans I2, j'ai le numéro du doigt 2. Okay. Alors ça ne change pas. Donc je peux le faire au moment de l'arrivée du doigt. Je note le numéro. On ne va pas avoir besoin de les mettre à jour. Et donc maintenant, quand j'ai un doigt qui bouge, eh ben, je peux savoir quel doigt c'est en comparant le finger ID de l'événement motion à I1 ou à I2. Si le finger ID vaut I1, bah, c'est que c'est mon premier doigt qui bouge. Si le finger ID vaut I2, c'est que c'est mon deuxième doigt qui bouge. Et alors là, soit vous faites un if, dans l'action vous faites un if. Moi je verrais ça plutôt comme une garde, c'est-à-dire je vais avoir du coup deux cas avec deux événements motion possibles. Soit c'est un motion avec son finger ID. Donc là, j'ai un doigt qui a bougé et je sais que c'est I1, d'accord ? Donc je mets une garde. Et puis du coup, le deuxième cas, je mets sur une autre transition, get finger ID. Je vais faire la notation FI pour finger ID, d'accord ? Égal I2. Donc ça, c'est le cas. Et donc là, je vais avoir une autre action, d'accord ? C'est les deux cas possibles. Donc, dans les deux cas, il va falloir que je fasse un pinch, mais qui va être différent. Ça va ? Alors, on sera en cours. Je verrai vos visages et je pourrais me dire, y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Peut-être qu'il faut réexpliquer des choses. Et là, du coup... je suis dans le vide complet. Donc, dites-moi surtout si ça ne va pas, en fait. Ceux pour qui ça va, c'est gentil. Ceux pour qui ça ne va pas, dites-moi s'il y a des choses qu'il faut que je réexplique. Alors, évidemment, hein, vous me voyez faire, c'est tout de suite, c'est plus petit à petit, les choses peuvent vous paraître logiques et se structurer un petit peu. Si vous êtes tout seul devant la feuille, alors, je ne vous cache pas que cette interaction-là, là, c'est une des plus compliquées que j'ai données en examen. Et ça ne s'était pas forcément très bien passé. Quoi. Regardez, c'est pour ça que je corrige celle-là en priorité, pour montrer un petit peu tout le cheminement. Mais reprenez les examens pour faire des révisions, reprenez les autres sujets d'examen et vous verrez les techniques décrites sont plus simples que ça. Alors, il y a une question pour P2, pas besoin de start drag. Alors, la description de l'interaction, c'est avec un doigt, le déplacement est géré par les fonctions start drag, drag, end drag. Et quand il y a deux doigts, on a juste pinch. On n'a pas de start quelque chose ou de end quelque chose. Okay. Donc, ici, on n'a pas de start drag à faire parce qu'en fait, c'est un pinch qui commence. Ok. Alors par contre, si on voulait être logique, je pense, faut vérifier l'identifiant pour la boucle du deuxième état. Oui, ouais, tout à fait. La boucle du deuxième état, en fait, vous voyez, on en a mis deux. On en a mis une. Alors attendez, mon curseur, vous ne le voyez plus, voilà, il est revenu. On a mis deux boucles. Une pour, dans le cas où c'est le doigt numéro 1 qui bouge, et une pour le cas où c'est le doigt numéro 2 qui bouge. Donc on a mis deux boucles sur l'état pinch. Ah, dans l'état drag. Dans l'état drag, on ne peut pas avoir le doigt 2 qui bouge. On n'a qu'un seul doigt. Okay. Il y a un doigt qui est arrivé. Et donc, dans l'état drag, on ne peut pas avoir deux doigts. Alors, il y a un cas, qui va falloir qu'on traite, hein, qui n'est pas encore traité. Effectivement, donc là, on a un doigt qui arrive en plus. Donc, on est dans pinch. Et on a mis une transition là qui est un petit peu... on a dit, ben bon, ben, s'il y a un doigt qui voilà, c'est ça, exactement. Si on a un doigt... on était dans pinch, il y a un doigt qui est relâché, on revient dans drag. Là, alors si c'est le doigt 1 qui reste, bah, ça va bien. Vous voyez, on utilise P1, etc. On fait comme si de rien n'était. Par contre, si c'est le doigt 2 qui reste, va sans doute y avoir des choses à modifier. Okay. Donc là, la transition, elle n'est pas du tout complète, hein, effectivement. Et puis, il va falloir sans doute refaire un start drag, en fait, puisqu'on commence un drag. De la même manière, alors... peut-être on peut traiter ça. Alors là, on a laissé en suspens, on a un gros vide ici, c'est pinch. Il va falloir trouver les bons arguments et voir qu'est-ce qu'il faut manipuler. Mais on a la question sur le start là. Donc on était dans idle, on a fait un start de drag. On fait des drags et des drags. Et là, on commence un pinch. Alors on a dit, il n'y a pas de start pinch. Mais en fait, même si on ne fait pas un start pinch, peut-être que ça vaudrait le coup de faire quelque chose ici. Parce que notre drag se termine. Si on commence un pinch. Donc moi, je mettrais bien un end drag ici. Okay. Donc ici, on avait un start drag. Et je mettrais bien un end drag ici. Okay. Je vous ferai un truc au propre que je vous enverrai parce que là, ça va être de plus en plus difficile de lire mes gribouillis. J'espère que vous arrivez à suivre un petit peu quand même. Donc on garde pour plus tard là, le retour. On va finir l'allée. Donc notre doigt 1 est arrivé, il y a eu éventuellement des drags. Notre doigt 2 est arrivé. Et là, soit c'est le doigt 1 qui bouge, soit c'est le doigt 2 qui bouge. Alors on commence par quoi? On va faire le doigt 1 qui bouge. Donc pinch, vous avez vu le suspect, il faut lui donner l'ancienne position du doigt 1. Ben, c'est facile, ça on l'a, ça s'appelle P1. Sa nouvelle position, ben, ça s'appelle E.getPoint, puisque on sait que c'est le doigt 1 qui bouge, donc ça c'est sa nouvelle position. L'ancienne position du point 2, ben, ça c'est facile, il n'a pas bougé, donc son ancienne position c'est P2, et sa nouvelle position c'est aussi P2. Et il faut aussi mettre à jour P1 et P2, exactement. Très bonne remarque. Donc là, alors P2 n'a pas bougé. Donc du coup, on va bien penser à mettre à jour P1. Okay. Et dans le cas où c'est P2 qui a bougé, eh ben, on a un truc qui est symétrique. Donc on a P1, P1. Hop, je vous pousse ma tête que vous voyez. Et du coup, l'ancienne position de P2, ben, pour l'instant, elle s'appelle P2. Et la nouvelle position de P2, elle nous est donnée par l'événement lui-même. Et du coup, il faut penser à mettre à jour P2. Hop là. Donc ces deux méthodes-là, elles sont quoi, ces deux transitions-là, vous voyez, elles sont exactement symétriques. Alors on aurait pu le faire en en faisant une seule et en mettant un if plutôt que des gardes. Ça, c'est un petit peu cosmétique, c'est un petit peu à vous de choisir. Et donc dans notre machine à état, là, le press, le deuxième press, celui qu'on avait mis dans la séquence là-haut, il est ici. Le premier press, il est là. Les drag, ils sont. Les motions du drag, ils sont là. Le relâché du doigt, il est là. Et maintenant, on a des mélanges. 2M1 et 2M2. Je vais mettre comme ça. Tac, tac. Ben, ces mélanges de M1 et de M2, on les traite à deux endroits. On les traite ici et ici. Donc là, c'est ce qu'on a noté M1 et là, c'est ce qu'on a noté M2 dans notre séquence d'événements. Alors, le bon côté des choses, c'est si on relâche le doigt numéro 2, ben on revient à notre machine à état, on revient dans l'état drag, P1, il est déjà là où il faut, et donc on n'a quasiment rien à faire. On aura sans doute, on avait fait un end drag dans ce sens-là, on aura sans doute juste à faire un start drag. Ce à quoi il faut que vous réfléchissiez, c'est qu'est-ce qui se passe. Donc le scénario où je relâche le doigt numéro 2, en fait, il est assez simple. D'accord. Je peux même l'écrire. Donc du coup, relâcher, il va falloir nos deux cas possibles, les séparer. Alors, je suis un peu à court de couleur, hein, mais c'est pas très bien. Je vais mettre du mal. Si je relâche le doigt numéro 2, hop. Ben là, c'est facile. Alors, du coup, il faut tester que c'est le doigt numéro 2. Hein, donc, il faut vérifier que e.get fingerid égal i2. D'accord. Donc, si j'ai bien relâché le doigt numéro 2, dans ces cas-là, j'ai sans doute pas grand-chose à faire à part faire un start drag. OK. Et donc le cas qui reste à regarder, qui est sans doute le cas un petit peu plus compliqué, auquel je vais vous laisser réfléchir, c'est si je relâche le doigt numéro 1. Alors là, il va me falloir une autre transition, puisque j'ai fait des gardes. Et une transition qui va de pinch. Alors, comment je vais faire ça? Tout ça, hop. Je vais le mettre en plus petit. Vous n'allez rien voir. Ça va être minime. Bon. Je vais mettre un coin par là. Hop. Je vais prendre toute ma machine à éteindre. Hop. Et elle, je vais la mettre un peu plus haut, par ici. OK. Et je vais rajouter ma transition. Donc, c'est une transition qui doit aller de pinch et qui doit revenir à drag. D'accord. Je vais la faire passer où je peux. Hein. Hop, elle va là. Elle revient à drag. Et c'est quand je relâche et que c'est le doigt I1 qui est relâché. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est notre transition. Ce que j'ai mis en orange dans ma séquence d'événements. Hein, je suis en train de relâcher le doigt numéro 1. Donc, si je reviens, bah, P1, évidemment, ce n'est pas ce qu'il me faut, puisque moi, j'aimerais avoir P2 et non pas P1. Et pareil, I1, ce n'est pas ce qu'il me faut, puisque le doigt qui reste, en fait, il est identifié par I2. Alors, est-ce que quelqu'un voit la solution la plus commode pour faire ça sans tout chambouler notre machine état? Voilà. Et si on. Donc il y a une suggestion dans le chat là, que je vous laisse regarder. Donc il y a une proposition qui est de mettre à jour P1 et de dire que P1 vaut P2. Que P1 vaut P2 et que I1 vaut I2. D'accord. Donc dans ma variable I1, c'est une variable, hein, elle mémorise le numéro du doigt qui a commencé l'interaction. Donc au moment du start drag ici, j'ai une interaction qui commence et je dis bah, I1 c'est le doigt numéro 1 et P1 quoi, c'est tel identifiant de doigt et sa position, voilà sa position. Mais en fait, quand j'arrive de par ici, je suis en train de faire un start drag. D'accord, donc je peux mettre le start drag, comme ça, ça sera fait. Et donc, au moment où mon drag commence, eh ben, je dis que la position du doigt qui fait le drag, donc P1, j'appelle ça P1, ben, je la reprends de, puisque le doigt qui reste, il est déjà quelque part, ben, je la reprends du doigt qui s'appelait 2 jusqu'à maintenant. En fait, je renomme mon doigt 2, je le renomme en doigt 1, puisque c'est lui qui reste. Et donc, je reprends son identifiant. L'identifiant du doigt qui reste, il était dans I2, je le mets dans I1. Et maintenant, on l'appelle I1. Et avec tout ça, notre machine à état doit être complète, je pense. Il me semble pas qu'il manque des choses. Il me semble qu'on a traité vraiment tous les cas. Si vous voyez des problèmes, dites-moi. Il me semble que je me souviens plus si c'était plus encore plus subtil que ça, mais il me semble pas. Peut-être on peut se poser la question, parce que le sujet vous dit on pourra faire l'hypothèse qu'on a au plus deux doigts en même temps. Qu'est-ce qui se passe avec notre machine à état là s'il y a un troisième doigt qui arrive? Donc troisième doigt qui arrive, ça veut dire que, alors vous avez vu, oui, alors une des propriétés intéressantes là de notre machine à état, elle a trois états. Idle, bah, c'est le cas où il n'y a pas encore de doigt, on attend un doigt, il arrive, on passe dans l'état drag, donc ça c'est l'état où il y a un doigt. Drag, on a un doigt qui arrive, donc on passe dans l'état pinch. Pinch correspond donc à l'état où on a deux doigts, d'accord. En fait, 0, 1, 2, ces états nous comptent le nombre de doigts. Si vous avez un troisième doigt qui arrive, on sera forcément dans l'état pinch. Okay. Qu'est-ce qui se passe quand dans l'état pinch, j'ai un doigt qui arrive? Et ben, ma machine à état, elle n'en fait rien. D'accord. Il n'y a pas de transition avec un press, donc il est tout simplement ignoré. Si ce troisième doigt bouge, et ben, regardez, j'ai fait des motions en traitant le cas où le finger ID c'est I1 et le cas où le finger ID c'est I2, et ben du coup, si le doigt bouge, si le troisième doigt bouge, et ben il est ignoré aussi. Alors c'est là où il y a un petit cas qui aurait pu se poser. Par exemple, si on avait fait une seule transition motion et si on avait fait un truc genre if e.getFingerID égale I1, on fait notre pinch qui est là, et si on avait mis un else sans refaire le test égale I2, et bien à ce moment-là, si le troisième doigt avait bougé, on serait passé dans le else. Okay. Donc le fait de bien tester si c'est le doigt 1 et si c'est le doigt 2, donc ça fait un peu ceinture et bretelle, parce que si ce n'est pas le doigt 1, on pourrait se dire que ben c'est forcément le doigt 2. Donc si on avait fait un if avec un else, ben là on aurait pu avoir des cas, donc c'est un peu subtil, hein, mais où l'utilisateur il met trois doigts, l'arrivée du troisième doigt est ignorée comme il faut. Le départ du troisième doigt, d'ailleurs, est ignoré comme il faut, parce que là, on fait bien deux cas. Mais si on avait fait un if et un else ici, le troisième doigt serait traité comme si c'était le deuxième doigt. Donc, le fait d'avoir, de bien tester qu'on a le doigt 1 dans un cas, le doigt 2 dans l'autre cas, fait que notre machine à état, là, elle est robuste, même avec une arrivée d'un doigt supplémentaire, elle continue à marcher, et ce doigt supplémentaire est ignoré, tout simplement. Voilà, dans les petites choses. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette machine-là, et à retenir, regardez des autres sujets. Il y a des sujets où, par exemple, on fait une interaction à la souris. Quand on fait un press, ça fait ceci. Quand on fait un release, ça fait cela. Et puis, il y a une touche du clavier qui vient. Et quand on appuie sur la touche du clavier, ça modifie l'interaction à la souris. Alors, typiquement, dans les logiciels de dessin, par exemple, de dessin vectoriel, avec la souris, vous mettez un point, vous posez un point. L'autre point, c'est l'autre extrémité du segment. Et puis, si vous utilisez Shift ou Ctrl, ça dépend des logiciels, ça fait une contrainte. C'est-à-dire que le trait que vous dessinez, il est parfaitement horizontal ou parfaitement vertical ou parfaitement à 45 degrés. Donc, ça rajoute une contrainte. Donc, pendant l'interaction, vous appuyez sur une touche de clavier qui fait basculer l'interaction d'un état à un autre. D'accord ? Et ce que ça a de commun avec ce qu'on a fait là, et ce qu'il faut garder en tête, c'est que en fait, les événements sont sérialisés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un press de souris en même temps que… Ça, c'est une erreur que je vois souvent. Parce qu'on dit, par exemple, que si la souris est pressée alors que la touche Shift est enfoncée, ça, ce n'est pas une transition avec Shift et la souris sur la même transition. Ça veut dire qu'avant, il y a une transition Shift, qui presse avec un Shift dedans et qui nous a amené dans un état. Et depuis cet état-là, si on fait un presse souris, alors il va se passer quelque chose. Il y a forcément une séquence d'événements. On ne peut pas avoir une transition étiquetée avec deux événements, le fait qu'il y ait telle touche enfoncée et tel bouton enfoncé de la souris. Gardez ça bien en tête. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus ? Non, je pense que c'est à peu près tout. Alors, si on revient là, donc je vous fais une version propre que je vous envoie. Si on revient au sujet, dessiner la machine à état, et après on vous disait réaliser la machine à état de la question précédente. Et pour cela, on vous donne une classe. Vous avez une classe qui est donnée, qui, quand elle est construite, vous lui créez une nouvelle instance de la classe que vous avez besoin que vous devez faire. Je vais mettre tout le sujet. Je vais faire ça. Hop. Avec le code qui est déjà, c'est pas à vous de l'écrire. Et par contre, vous avez à écrire une classe qui est là et on vous montre comment elle se fait. Donc lui vous ajoute, alors en swing c'est pas cette même syntaxe, mais ça ressemble, ce sera un add mouse motion listener, etc. Et vous avez à remplir ce code là et alors ça, souvenez-vous, hein, une énumération switch, etc., etc., quoi, comme on a fait en cours plusieurs fois. C'est pas la partie la plus dure, celle-là, hein, de traduire la machine à état dans du code Java. C'est encore une fois, c'est mécanique. Hein. Faut penser à faire une énumération, faut penser à faire un switch à chaque fois qu'on a un événement qui arrive, à faire un switch sur l'événement. Mais il n'y a pas de réelle difficulté sur la question suivante. Voilà. Et du coup, l'heure a tourné, mine de rien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou de manière générale sur les examens ? Non, rien de particulier. Eh bien, ce que je vous propose, d'ici la semaine prochaine, vous regardez les sujets d'examen d'archives. Et puis essayer de faire quelques exercices. Et puis vous me direz s'il y a des choses qui vous ont posé problème, s'il y a des choses que vous voulez qu'on corrige ensemble. On consacrera la séance de la semaine prochaine à ça. Pour le projet, je dépile. Il y a des trucs, il y a des questions où je mets un petit peu de temps à répondre parce que je fais cours par ailleurs, etc. Ça arrive à des moments où je ne suis pas forcément disponible. Et puis, du coup, après, ça se retrouve sous des piles de mails. Donc, j'essaye de dépiler quand même en priorité vos questions. Après, il y en a qui trouvent les réponses avant que j'ai eu le temps d'arriver à leurs questions. Donc, bon, je suis désolé, hein, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas regardé. Des fois, je regarde et j'ai eu des problèmes pas triviaux du tout qui m'ont été soumis. Honnêtement, je n'ai pas fait beaucoup mieux que vous. Il y a quelques trucs que j'ai pu dépanner les gens, mais vous butez sur des trucs qui sont un petit peu, des fois, à la limite, quand on lit la doc, on voit pas bien pourquoi ça marche pas, par où creuser pour que ça marche. Donc voilà, je suis comme vous, avec un petit peu plus d'habitude, mais je fais pareil, je lis la doc et puis j'essaye de voir. Pour les trucs évidents, je vous réponds plus vite en général. Pour le projet, je ne sais plus s'il y a un rendu qui a été programmé sur Moodle, il me semble. Et donc, du coup, ce n'est pas moi qui ai la main sur le rendu et ce n'est pas par mail, du coup. Hein, alors, j'ai vérifié avec Guillaume Huard. Il me semble que c'est Guillaume Huard qui a mis le... qui a dû mettre un truc sur Moodle. Voilà, c'est ça. Il y a un rendu sur CO. Donc, vous faites le rendu là-bas. Je vais préciser ça. Je vais vous envoyer un petit message de récap. Là. Je vais vous préciser ça. OK. Si vous avez des questions, des commentaires, on a un petit peu de temps. De toute façon, moi je reste là. Après, si vous, ceux qui veulent y aller, confins, vous pouvez y aller. Hein. Moi je reste là jusqu'à midi pour toute question éventuelle. Allez, je vous remets cette magnifique machine à éteindre que je vais vous mettre au propre. Ma bonne journée à ceux qui y vont. Mais Venu Gravel, non, désolé. Donc moi j'en suis resté à Ant, qui était l'ancêtre hein, de ma Ven, qui est plus type Makefile, qui est pas utilisé pour des choses plus complexes, pour gérer les dépendances, etc. Au-delà de recompiler s'il y a besoin. Donc désolé, j'ai aucune expérience avec ma Ven.